Eh bien, merci d'être venu si nombreux ce soir pour la présentation de ce livre, Trop jeune pour mourir, qui est sorti il y a un mois, novembre 2014. On l'a sorti dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. Et ça ne vous aura pas échappé que pour ce centenaire de la Grande Guerre, dans tout le flot historiographique et éditorial qu'il y a eu, on a abordé la Grande Guerre par tous les angles, mais il y a eu un grand absent. Ce grand absent, c'est le mouvement ouvrier. Alors que dans les années 50-70, la question du rapport du mouvement ouvrier à la guerre, c'était un sujet d'étude en soi. Eh bien aujourd'hui, en 2014, il a simplement disparu. Sans doute est-ce symptomatique de notre époque. Mais en tout cas, on a sorti ce livre qui est un des seuls, du coup, qui aborde la question. Et qui ne l'aborde pas pendant la guerre, mais qui l'aborde sur la période précédente, c'est-à-dire la période 1909-1914. Donc, qui est une période qui était jusqu'ici très mal connue, très peu étudiée par les historiens du mouvement ouvrier. Sans doute parce que... Elle était vue comme l'obscur prélude aux choses sérieuses. Mais en fait, c'est une période assez passionnante à étudier, parce qu'il y a énormément de choses qui s'y passent. En fait, ce livre, il est construit selon trois logiques imbriquées. La première logique, c'est qu'il y a un panorama du mouvement ouvrier de l'époque. Alors, quand on se plonge là-dedans, c'est quelque chose d'assez inattendu, hein, d'assez extraordinaire, parce que c'est tout un univers, en fait. Hein, le mouvement ouvrier à l'époque, c'est... Je ne m'y attendais pas à trouver ce foisonnement de syndicats, de coopératives, de restaurants coopératifs montés par les syndicats pour les travailleurs, d'organisations, qu'elles soient anarchistes ou socialistes, mais également les ligues de ménagères, les unions syndicales de locataires, les bourses du travail, les groupes de chansonniers, les groupes culturels. Enfin, il y a un véritable foisonnement, dans une certaine mesure, c'est une contre-société. Hein. Le mouvement ouvrier à l'époque. La deuxième logique qui conduit la construction de ce livre, c'est de raconter la montée vers la guerre dans la France de l'époque. C'est quelque chose qu'on a complètement oublié, la façon dont le gouvernement français a préparé la guerre idéologiquement et matériellement. Il a fait un véritable travail de préparation de la population avec la politique à partir de 1912 notamment, de ce qu'on appelait la fermeté nationale. Et donc, à partir de cette date, il y a une politique de militarisation de la société et une politique de propagande et de durcissement diplomatique vis-à-vis de l'Allemagne, avec l'idée de faire de l'armée française, de la faire redevenir le pilier de la nation. Et c'est une période de répression constante contre les gens qui s'y opposent, les antimilitaristes et les antipatriotes. Et la troisième logique qui conduit ce livre, eh bien, c'est de raconter une histoire qui n'avait jamais été racontée. C'est celle d'une petite organisation, enfin qui était la première organisation libertaire en France, qui s'appelait la Fédération communiste anarchiste, et dont l'histoire constitue le fil rouge de ce livre. D'ailleurs, ça a été le point de départ de mon travail, puisque j'ai commencé en fait par travailler là-dessus. Si vous avez l'occasion de lire ce livre, vous verrez que de toute façon c'est quelque chose d'un peu baroque, on y trouve beaucoup de choses, il y a beaucoup d'entrées possibles, on peut y entrer un peu selon ses centres d'intérêt. Si vous vous intéressez en premier lieu au syndicalisme, aux grèves, au mouvement ouvrier, vous pouvez rentrer par là. Si vous vous intéressez à la question des femmes et du féminisme et du mouvement syndical, vous pouvez rentrer par là. Si vous vous intéressez à la question des travailleurs migrants, vous pouvez rentrer par là. Si vous vous intéressez au sabotage comme technique de lutte, vous pouvez rentrer par là. C'est un livre où il y a de multiples entrées. Mais ce soir, pour vous le présenter, je vais choisir un angle qui est en fait la véritable dynamique du bouquin. C'est celui de la lutte contre la guerre. En posant la question suivante. On sait que en juillet 1914, la CGT a été impuissante à soulever la population et à faire la grève générale contre la guerre, ce qui était sa stratégie pour l'en empêcher. La question, c'est pourquoi est-ce qu'elle a été impuissante à agir en 1914, alors que dans des situations de crise analogues, à l'automne 1912 et à l'été 1911, elle avait réagi avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination contre la guerre. Pourquoi en juillet 14 elle n'y parvient pas? C'est la question que je pose et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors la stratégie de la CGT, c'était la grève générale contre la guerre. On croit généralement que la CGT avait promis d'appeler à la grève générale en cas de guerre. En fait, pas du tout, c'est faux. La CGT était beaucoup plus prudente Et en 1908, au Congrès confédéral de Marseille, elle avait adopté une résolution qui disait à peu près ceci. Le devoir de la CGT et des syndicats, c'est de faire l'instruction des travailleurs, nationalement et internationalement, de façon à ce que, au jour d'une déclaration de guerre, les travailleurs y répondent par la grève générale révolutionnaire. Donc la CGT ne se donnait pas l'obligation d'y appeler, elle se donnait l'obligation de faire l'instruction des travailleurs pour que, spontanément, d'eux-mêmes, ils s'y opposent. Cette motion pourrait paraître un peu ambiguë ou un peu équivoque, parce qu'on pourrait se dire que c'est une façon de ne pas se donner d'obligation au moment crucial. Mais en réalité, il y avait un accord autour de ce texte entre la direction confédérale de la CGT et la gauche de la CGT. La gauche de la CGT, pour résumer, c'était celle qui était animée par les anarchistes et par ceux que j'appelle les syndicalistes révolutionnaires ultra, qui ne sont pas anarchistes mais qui fonctionnent en quasi-osmose. Pourquoi ? Parce que la gauche de la CGT savait qu'en cas de guerre, la première chose que ferait le gouvernement français, ce serait de décapiter l'organisation confédérale et de mettre en prison l'ensemble des dirigeants de la CGT et des dirigeants des fédérations. Donc il ne fallait pas habituer les travailleurs à attendre le mot d'ordre venu d'en haut. Il fallait les habituer à agir par eux-mêmes. Alors d'où venait cette idée de grève générale ? Elle venait de la Première Internationale. À son congrès de 1868, la Première Internationale avait adopté cette résolution qui disait « Face à la guerre, face à une guerre internationale entre les États, les travailleurs doivent se croiser les bras pour l'empêcher. » Bon, elle avait été impuissante à empêcher la guerre franco-allemande, mais elle était restée gravée dans le marbre et dans les décennies suivantes, dans les années 1880-1890, elle était régulièrement citée dans les congrès ouvriers, invoquée, mais davantage de façon rituelle, incantatoire, que comme quelque chose qu'on allait mettre en application réellement. Les choses changent au tournant du XXe siècle, parce qu'à ce moment-là, il y a des tensions bellicistes entre la France et la Grande-Bretagne. Pour une question de rivalité coloniale, au Soudan, l'affaire de Fashoda. Et là, on est en 1900-1901, il y a des tensions bellicistes entre la France et la Grande-Bretagne. À ce moment-là, la question se pose avec beaucoup plus d'acuité et beaucoup plus d'urgence. Et les syndicats français, donc à ce moment-là, la CGT existe depuis 1895, la Fédération des Bourses du Travail existe également depuis 1893-94, et à ce moment-là, les syndicats français contactent leurs homologues britanniques et décident d'organiser une grande démonstration conjointe contre la guerre. Donc, il y a une cinquantaine de délégués français, aussi bien réformistes que révolutionnaires, issus de la CGT et de la Fédération des Bourses du Travail, qui montent à Londres et qui font une énorme démonstration avec les travailleurs et les trade unions britanniques en disant et en ressortant, donc en la remettant sur le tapis, ce mot d'ordre de grève générale contre la guerre, de grève générale si jamais la guerre éclate. Et à partir de ce moment-là, ce mot d'ordre redevient véritablement important. La même année, autre événement important, il y a l'ultime congrès de la Fédération des Bourses du Travail. La Fédération des Bourses du Travail était une organisation syndicale un peu plus petite que la CGT, mais qui était un peu plus à gauche. Et à son ultime congrès, qui se tient à Alger en 1901, elle décide de se lancer ouvertement dans la propagande antimilitariste et antipatriote. À l'époque, on ne dit pas internationaliste, ça apparaîtra dans l'entre-deux-guerres, on dit antipatriote. Parce qu'il faut enseigner aux travailleurs que les travailleurs n'ont pas de patrie et il faut combattre donc, les idées patriotiques. Pour faire cette propagande, elle mandate son secrétaire pour rédiger une brochure, fascicule, qui traitera de ce sujet. Et le secrétaire de la Fédération des Bourses du Travail, c'est Georges Yvetot. Georges Yvetot, c'est pas n'importe qui, c'est un anarchiste qui n'a pas son drapeau noir dans sa poche. C'est une grande gueule, c'est un personnage haut en couleur. Par la suite, il sera considéré comme le champion du courant anarchiste dans la CGT. Et dans mon livre, je parle très très souvent de Georges Yvetot. Georges Yvetot est secrétaire de la Fédération des Bourses, il est mandaté pour rédiger cette brochure, fascicule, qui va s'appeler « Le nouveau manuel du soldat ». Le nouveau manuel du soldat, quand on le lit, on y découvre en fait la matrice de tout ce qui sera la phraséologie et les discours antimilitaristes et antipatriotes du mouvement ouvrier et du mouvement anarchiste pour les 15 années suivantes. On y trouve tout. l'armée école du crime, la caserne école de la soumission, les soudards galonnés, le sadisme des chaouches, les sous-officiers du bagne militaire auxquels on est envoyé quand on est une forte tête. On y trouve le combat contre la religion patriotique, la fiction patriotique. On y rappelle que les travailleurs n'ont pas de patrie. Et on donne au jeune syndiqué, qui est appelé sous les drapeaux pour son service militaire, on lui donne un conseil, on lui dit qu'il a le choix entre deux solutions. Lorsque tu es appelé sous les drapeaux, soit tu refuses de rentrer dans l'armée bourgeoise, tu désertes, tu passes la frontière, tu te réfugies en Suisse, en Belgique, et là tu trouveras le secours de nos camarades, des syndicats de l'autre côté de la frontière. Soit tu vas à la caserne, et là tu fais de la propagande antimilitariste, tu t'efforces de gagner tes camarades de chambrée à la cause ouvrière, et tu leur enseignes les choses fondamentales. Ne brise pas les grèves, ne tire pas sur tes frères et sœurs ouvriers, y compris de l'autre côté de la frontière. Donc cette brochure, le mouvement du soldat, est extrêmement importante, parce qu'elle va fournir, vous allez voir, la matrice de tout le reste. Dès qu'elle sort, évidemment, c'est un énorme scandale, et elle est traînée en justice. Georges Yvetot se retrouve en cour d'assises, pas tout seul, il s'y retrouve avec 40 camarades, parce que 40 militants de la Fédération des Bourses ont demandé à être inculpés également, arguant que cette brochure était une œuvre collective, ce qui était faux. Mais il se retrouve dans le box, et là, coup de peau, le procès tourne à la confusion du ministère public, le jury populaire acquitte Georges Yvetot et ses camarades, et le parquet ne fait pas appel. Du coup, le nouveau manuel du soldat se trouve bénéficier d'une forme d'immunité judiciaire qui va permettre qu'il soit réédité et réédité et réédité encore. Jusqu'en 1914, j'ai compté au moins 16 rééditions et au moins 215 000 exemplaires imprimés et distribués dans la population, ce qui est tout à fait considérable. Par la suite, l'État fera de nouveau des poursuites contre la CGT à cause de ce nouveau manuel du soldat. Alors d'ailleurs, toute petite parenthèse sur ce nouveau manuel, c'est la Fédération des Bourses qui l'a rédigé et édité. Mais en 1902, l'année suivante, la Fédération des Bourses a fusionné dans la CGT. Et le nouveau manuel faisait partie du panier de la mariée. La CGT s'est donc retrouvée dans l'obligation de le rééditer, de le diffuser, alors qu'aucun de ses congrès n'avait voté des résolutions aussi radicales que celles qui étaient contenues dans le nouveau manuel, notamment l'appel à la désertion. Et les réformistes criaient au scandale, mais les révolutionnaires se frottaient les mains, ils pouvaient distribuer ce matériel sans avoir besoin que ce soit voté en congrès. Il se passe une dernière chose importante au tournant du XXe siècle, c'est qu'en septembre 1900, il y a le congrès confédéral de la CGT à Paris, et la CGT se dote d'une institution, et cette institution, c'est le sou du soldat. Alors qu'est-ce que c'est le sou du soldat ? C'est une caisse de secours que les syndicats peuvent mettre en place sur la base du volontariat. Ils mettent en place cette caisse et elle leur permet d'envoyer un secours financier à leurs jeunes syndiqués quand ils sont appelés sous les drapeaux. À l'époque, le service militaire dure 3 ans et les syndicats peuvent ainsi régulièrement envoyer une obole à leurs jeunes syndiqués. Ça permet de garder le lien entre le jeune syndiqué et son organisation de classe. Et puis souvent, à ce secours financier, les syndicats, notamment les syndicats les plus radicaux, joignent une lettre circulaire dans laquelle ils rappellent le jeune homme à ses obligations de prolétaire conscient, qui sont donc « ne brise pas de grève, désobéis si on te demande, ne tire pas sur tes frères et sœurs ouvriers, y compris de l'autre côté de la frontière ». Cette institution du soldat va se développer, elle n'aura de cesse de se développer jusqu'en 1914. Donc ça, c'est à peu près les outils dont se dote la CGT alors qu'on est au tournant du siècle. Et alors, comment fait la CGT pour faire cette instruction donc, des travailleurs sur l'antimilitarisme et sur l'antipatriotisme ? Eh bien, il y a un moment clé dans l'année qui est l'appel de la classe. L'appel de la classe, c'est quoi ? C'est en octobre de chaque année, on appelle sous les drapeaux une classe d'âge. Et les jeunes gens partent au service militaire. C'est un moment très important dans la France de l'époque, c'est une sorte de rite de passage à l'âge adulte. Et dans tous les villages de France, vous avez des jeunes gens qui font la fête, qui sont tout fiers d'avoir leur matricule et qui boivent, qui chantent la Marseillaise. On va reprendre l'Alsace et la Lorraine, c'est formidable. Et Gaston Coutet, le poète, a fait d'ailleurs un poème à ce sujet où il se moque. Ce poème s'appelle « Les conscrits ». Il se moque d'eux en les présentant en train de se battre entre eux, de trop boire, vomir, etc. Mais à ce moment-là, au moment de l'appel de la classe, eh bien, la CGT, les anarchistes, mais même la gauche du Parti Socialiste, organisent systématiquement des grands meetings où on s'adresse aux jeunes gens qui vont partir sous les drapeaux et où on leur rappelle une fois de plus leur devoir de prolétaire conscient. Voilà à peu près pour le cadre de l'action antimilitariste de la CGT et des syndicats à l'époque. Maintenant, je saute à une étape importante, même si elle se situe en dehors du champ d'étude de mon livre, c'est 1905. 1905, c'est le premier coup de semonce de la guerre qui s'annonce. C'est le coup de Tanger. Le Kaiser débarque au Maroc. Il y a une tension diplomatique qui monte très très vite à ce moment-là entre la France et l'Allemagne parce qu'il y a une rivalité franco-allemande intense pour le contrôle du Maroc. Donc 1905 voit une grave crise diplomatique entre la France et l'Allemagne et à ce moment-là, le secrétaire de la CGT, Victor Griffel, saute dans le train de Berlin et va rencontrer ses homologues allemands et leur dit, donc les représentants des syndicats sociodémocrates allemands, et leur dit, écoutez, la situation est urgente, la guerre menace, il faut qu'on organise des manifestations conjointes contre la guerre, comme on l'a fait 4 ans auparavant à Londres avec les Britanniques. Le problème, c'est que là, ils se heurtent à un mur, et que les dirigeants de la centrale social-démocrate allemande lui répondent « Mais écoutez, on ne comprend pas de quoi vous nous parlez, on ne comprend même pas pourquoi vous êtes ici. Si vous voulez qu'on fasse quelque chose ensemble, il faudra qu'au préalable, notre parti socialiste se mette d'accord avec votre parti socialiste, et ensuite, on pourra faire des choses ensemble. » Victor Griffel a beau leur expliquer que la CGT est une organisation syndicaliste révolutionnaire totalement autonome du Parti Socialiste, qui n'a rien à voir avec cette organisation et qu'elle agit en toute indépendance, les Allemands ne veulent rien entendre et Griffel est obligé de reprendre le train de Paris avec une certaine amertume, mais aussi la conviction que ça ne va pas être facile de mettre en œuvre cette stratégie de grève générale contre la guerre s'il n'y a pas de répondant de l'autre côté du Rhin. Alors je saute à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le deuxième coup de semonce important. Et c'est véritablement d'ailleurs la première pièce de l'engrenage qui va mener à la guerre de 14, c'est à l'été 1911, le coup d'Agadir. De nouveau, une crise franco-allemande pour le contrôle du Maroc qui porte l'Europe au seuil de la guerre. Si jamais la France et l'Allemagne entrent en guerre, il y a de fortes chances que la Russie et l'Autriche entreront en guerre, et peut-être la Grande-Bretagne. À ce moment-là, la CGT va de nouveau contacter les syndicats sociodémocrates allemands pour organiser une grande manifestation ou des grandes manifestations conjointes contre la guerre. Mais elle va mettre de l'eau dans son vin, et cette fois-ci, pour réussir à faire quelque chose avec les Allemands, elle va accepter d'y associer le Parti Socialiste et le Parti Social-Démocrate. Donc elle organise à Paris 19e, à l'Aéroparc, qui est un espèce de grand terrain vague à Paris 19e, elle organise un grand rassemblement contre la guerre où il y a 60 000 personnes qui accourent. C'est le premier grand rassemblement contre la guerre de ces années-là. Il y en aura bien d'autres par la suite. Et à l'Aéroparc, on trouve tout le mouvement ouvrier, c'est-à-dire la CGT, bien sûr, mais également des sections socialistes, la Fédération communiste anarchiste est là avec son drapeau noir, l'Union syndicale des locataires, les ligues de ménagères, enfin tout le monde est là. Dans la foulée, il y a un grand meeting, à la tribune duquel on trouve tout le gratin de la CGT, le secrétaire Léon Jouot, Georges Yvetot, Alphonse Mérem, et bien d'autres. Et on trouve des représentants des syndicats allemands, et on trouve un député socialiste au Reichstag, et on trouve un député socialiste français. C'est la première fois que la CGT accepte de partager sa tribune avec un député socialiste. D'ailleurs, le président du meeting, qui est Bourderon, un syndicaliste révolutionnaire du Tonneau, qui lui-même est OPS par ailleurs, est quasiment obligé de s'excuser auprès de la salle et d'expliquer pourquoi il y a un député socialiste à la tribune, de façon à ce que la salle comprenne mais pourquoi c'est la première fois que ça arrive. Mais il y a également, en plus de tout cela, un représentant de la CNT espagnole, qui est un de ses fondateurs d'ailleurs, José Negret. Et puis, il y a un représentant de la centrale syndicaliste révolutionnaire néerlandaise, le NAS, qui s'appelle Cotec. Donc, il y a ce grand meeting avec tout le mouvement syndical, ouvrier, européen qui est là. Puis, les syndicalistes français prennent le train de Berlin. Ils partent à Berlin. Là, de nouveau, énorme meeting contre la guerre avec les travailleurs allemands. Et puis, il y a encore une délégation qui part en Espagne. Là, ce sont deux anarchistes. Hein, c'est Georges Dumoulin et François Marie qui prennent le train, qui vont participer à des grands meetings contre la guerre. Et d'ailleurs, leur voyage en Espagne est assez amusant parce que déjà, ils reflètent la géographie politique du moment en Espagne. Quand ils vont à Madrid, ils participent à un grand meeting avec 10 000 personnes organisé par le Parti Socialiste espagnol. Quand ils vont à Barcelone, ils participent à un grand meeting avec 15 000 personnes organisé par la CNT et les anarchistes. Il y a déjà un peu cette dichotomie à ce moment-là en Espagne. Et puis, donc, il y a ce grand mouvement donc, de contestation de la guerre et la crise diplomatique, heureusement, se dégonfle. Elle se dégonfle petit à petit. À partir de septembre 1911, elle sera résolue en novembre par une sorte de troc colonial. La France sort victorieuse du bras de fer, elle aura le contrôle du Maroc. Et l'Allemagne a un lot de consolation, on lui cède de vastes terres au Congo. La crise se dégonfle, mais l'alerte a été chaude. L'alerte a été chaude et il se passe quelque chose d'assez important pour la CGT à ce moment-là, en octobre 1911. Il se tient une conférence nationale de la CGT. Une conférence nationale, ce n'est pas comme un congrès, ça regroupe uniquement les représentants des fédérations et les représentants des bourses du travail et des unions locales de syndicats. C'est à peu près 50-60 personnes qui montent à Paris. Et là, le secrétaire de la CGT, Léon Jouot, demande, les yeux dans les yeux, à l'ensemble des délégués, si une nouvelle crise européenne éclate, quelle est notre capacité réelle à faire la grève générale contre la guerre? Et là, l'ensemble des délégués regardent ces godasses et est bien obligé de répondre, en l'état actuel des choses, nous n'avons pas cette capacité, nous ne serons pas suivis sur ce mot d'ordre dans nos différentes corporations. Il n'y a que deux délégués qui protestent du contraire. Il y en a un qui compte pas trop, c'est celui des PTT, parce que c'est des syndicats squelettiques à l'époque. Il y en a un qui compte beaucoup, c'est le délégué des mineurs. Et c'est même un peu paradoxal parce qu'en fait, la Fédération des mineurs est une fédération réformiste. Normalement, elle ne veut pas entendre parler de grève générale. Mais sur cette question de la guerre, elle joue le jeu et elle adhère à cette stratégie de grève générale contre la guerre. Et le délégué des mineurs dit « Nous avons fait suffisamment le travail et nous pensons que dans notre corporation, sur ce mot d'ordre, nous serons suivis. » Mais c'est les seuls. Donc, octobre 1911, la CGT sait qu'elle n'a pas les moyens de sa politique. Elle n'a pas les moyens de sa politique pour une grève générale contre la guerre. Cet épisode-là, on ne le trouve pas dans les comptes rendus officiel, ni dans les comptes rendus des journaux. C'était un moment à huis clos, on le sait par les rapports de police. Que va faire la CGT par rapport à ça? Une fois qu'on sait qu'on n'a pas les moyens de sa politique, il y a deux solutions. Soit on se dit, bon, on renonce à ses enfantillages, on passe à autre chose. Soit on persévère. C'est le choix que va faire la CGT. Elle va choisir de persévérer, de tracer son sillon, et d'essayer d'accentuer la propagande antimilitariste et contre la guerre. Alors à ce moment-là, tout le monde s'y met un peu. La section des bourses, par exemple Georges Giftot, fait passer des circulaires dans les bourses pour les inciter à accentuer la propagande antimilitariste, à faire davantage de travail en faveur de l'idée de grève générale. Et puis il y a un observateur du mouvement syndical que je cite beaucoup, parce qu'il est particulièrement intéressant, c'est Émile Pouget. Émile Pouget, il est très connu pour avoir été l'animateur de l'hebdomadaire anarchiste, le Père Pénard, dans les années 1890. Et puis, il est très connu pour avoir été un des pères de la CGT et du syndicalisme révolutionnaire. Mais Pouget, en 1911, il est retiré des affaires. Il est retiré des affaires et il tient une chronique syndicale dans le plus grand hebdomadaire d'extrême-gauche du moment, qui est La Guerre sociale. Et il tient une chronique syndicale très intéressante parce que Il a des antennes un peu partout, il connaît très bien la situation et il ne parle pas la langue de bois. Et donc Pouget, en octobre-novembre 1911, pose des questions. Quelle est la capacité aujourd'hui de la CGT? Où en est l'idée de grève générale aujourd'hui dans la CGT? Le grève généralisme, ça a été une idée structurante pour le mouvement ouvrier des années 1890 et même du début des années 1900. Mais Pouget fait le constat que en 1911, on n'en est plus là. Cette idée qui a été structurante, eh bien, disons qu'elle est, acquise, on s'en est un peu lassé et on ne peut plus considérer que c'est une idée motrice. Le comité de la grève générale qui existe au sein de la CGT, hein, qui existe au niveau confédéral, dont le rôle est de faire la propagande en permanence de l'idée, du concept même de grève générale, qui est censé s'appuyer sur des sous-comités de la grève générale dans les unions de syndicats et dans les bourses du travail, eh bien ce comité de la grève générale ne fonctionne plus guère, il est moribond, et la plupart des sous-comités de la grève générale n'existent que sur le papier, selon Pouget. Donc ça, c'est pas très encourageant. Ce qui l'est davantage, c'est que la propagande antimilitariste, elle, est réelle et qu'elle est en progression. Et ça, c'est corroboré par des rapports de police de l'époque. La police s'intéresse beaucoup à la question. Et il y a un rapport de police de 1911, notamment, qui établit que sur environ 150 bourses du travail adhérentes à la CGT, eh bien, il y en a 60% qui font activement et régulièrement la propagande antimilitariste, ce qui est considérable. Donc la CGT va continuer son travail d'instruction du prolétariat en vue de faire la grève générale en cas de guerre. Et je vais sauter à une étape, à l'étape suivante, qui est une étape décisive, parce que là, ça va être le crash test un petit peu de cette stratégie. L'étape suivante, c'est l'automne 1912, c'est la guerre des Balkans. D'ailleurs, pour résumer un tout petit peu l'engrenage qui va mener à la guerre, on peut le résumer de façon assez simple. Été 1911, c'est le coup d'Agadir, crise franco-allemande pour le contrôle du Maroc. La France sort vainqueur du bras de fer. Dans les semaines qui suivent, parce qu'il y avait un deal entre Paris et Rome pour acheter la neutralité italienne, dans les semaines qui suivent, l'Italie attaque la Libye pour s'en emparer et bat les troupes de l'Empire ottoman. Ce que voyant, quelques semaines plus tard, on arrive en octobre 1912, au terme de la guerre italo-turque, ce que voyant, les États balkaniques se disent l'Empire ottoman est impuissant, c'est le moment ou jamais de l'attaquer pour s'emparer de la Macédoine. Les États balkaniques, Bulgarie, Serbie, Monténégro, Grèce, qui en réalité sont téléguidés par la Russie, déclarent la guerre, attaquent l'Empire ottoman en octobre 1912. L'Empire ottoman est battu avec une rapidité qui déconcerte et qui surprend toute l'Europe. Ce que voyant, l'Allemagne se sent affaiblie parce que son allié ottoman est en miettes, parce que son allié austro-hongrois apparaît comme le nouvel homme malade de l'Europe, très affaibli dans les Balkans et dans sa composante slave. Et l'Empire allemand décide à ce moment-là de se lancer dans la course aux armements pour renforcer son armée. Et son armée de caserne, il la renforce de 180 000 hommes. Ce que voyant, la France, à son tour, entre dans la course et va, en 1913, renforcer son armée de caserne de 160 000 hommes. Et on atteint là la dernière pièce, une des dernières pièces de l'engrenage qui va mener à la guerre de 14. Mais je reviens à l'automne 1912, c'est donc la guerre des Balkans. En novembre 1912, l'Europe est au seuil de la guerre. Parce que l'Autriche et la Russie sont sur le point de mobiliser leurs troupes pour intervenir dans le conflit. Si l'Autriche et la Russie mobilisent leurs troupes pour rentrer en guerre l'une contre l'autre, en réalité, on sait que par le jeu des alliances, mécaniquement, la France et l'Allemagne entreront en guerre, voire la Grande-Bretagne. Tout le mouvement ouvrier européen le sait, tout le monde le sait. Donc le mouvement ouvrier européen réagit et organise dans toutes les grandes villes d'Europe de grandes manifestations contre la guerre. Il y en a à Paris, à Rome, à Berlin, à Vienne, un peu partout. Et puis l'International Socialiste, à ce moment-là, on est en novembre 1912, décide d'organiser quelque chose de spectaculaire, un grand congrès international contre la guerre. Ce congrès va se tenir à Bâle, dans une petite ville de Suisse, à la frontière avec la France et l'Allemagne. Aragon, dans son roman Les cloches de Bâle, raconte d'ailleurs un petit peu ce congrès, et ce congrès qui va se terminer d'ailleurs sous les voûtes de la cathédrale de Bâle, où il y aura des grands discours de toutes les têtes du syndicalisme, enfin pas du syndicalisme, toutes les têtes du socialisme européen, de l'international socialiste. Mais il y a également les syndicats sociodémocrates qui participent à ce congrès de Bâle. Il y a à ce moment-là de fortes pressions sur la CGT pour qu'elle participe au congrès de Bâle. Mais la CGT, en bonne organisation syndicaliste révolutionnaire, refuse d'y participer, elle refuse de passer sous les fourches codines de la social-démocratie, et non seulement elle n'y participe pas, mais de surcroît, elle organise son propre congrès concurrent. Aux mêmes dates, 24-25 novembre 1912, la CGT convoque un congrès confédéral extraordinaire contre la guerre à Paris. Un congrès dont le but essentiel va être d'appeler à une grève générale préventive contre la guerre. La CGT, de cette façon, dit « Voilà, nous n'allons pas, comme à Bâle, nous contenter de faire de grands discours platoniques contre la guerre. Nous allons mettre la classe ouvrière en action. » Alors, je reviens un peu sur ce congrès confédéral CGT de novembre 1912, parce qu'en fait, il dit bien toute l'habileté tactique des dirigeants syndicalistes révolutionnaires de la CGT à ce moment-là. En effet, la CGT, dans les années précédentes, elle avait déjà, à plusieurs reprises, essayé de faire des appels à la grève générale, mais ça n'avait jamais marché. Pourquoi ? Parce que souvent, c'était des appels qui émanaient du comité confédéral, c'est-à-dire de la réunion de l'ensemble des fédérations professionnelles. Et puis, c'était un décret de grève générale qui partait d'en haut, qui n'était pas tellement suivi à la base. Et puis l'autre problème, c'est qu'au comité confédéral, vous avez pas mal de fédérations réformistes aussi qui ne veulent pas entendre parler de grève générale. Alors, les mineurs sont réformistes, mais elles veulent bien entendre parler en cas de guerre. Par contre, vous avez d'autres fédérations qui sont stratégiques, notamment les cheminots. Les cheminots sont une fédération dirigée par des réformistes, même s'il y a une forte minorité révolutionnaire en son sein, et eux, il n'est pas question de leur parler de ça. Donc, la majorité syndicaliste révolutionnaire de la CGT va contourner les directions des fédérations réformistes, et surtout, en convoquant ce congrès confédéral, va mettre les syndicats à la base, eux-mêmes, en situation de décider de la grève générale. L'idée, c'est qu'il faut que ce soit les syndicats qui s'emparent de la question et qu'on ne va pas décréter ça d'en haut. Et cette tactique fonctionne parfaitement. Parce que quand vous convoquez un congrès confédéral à Paris, dont tout le monde sait que le thème va être la grève générale contre la guerre, les syndicats qui envoient des délégués, vous savez que ce seront les syndicats les plus à gauche, les plus radicaux, les plus révolutionnaires. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Le congrès est un grand succès. Il y a encore plus de délégués qu'au congrès ordinaire qui s'était tenu 2 mois auparavant. Le congrès se tient à la Bellevilloise, une coopérative ouvrière très connue à Paris 20e. Il n'y a pas assez de place dans la salle pour accueillir tous les délégués, et la grève générale est votée par acclamation. Il y a quelques délégués réformistes qui tentent de s'y opposer, mais la salle est assez fiévreuse, assez demandeuse d'action, et la grève générale est votée par acclamation. Et donc, on décide de préparer cette grève générale pour 3 semaines plus tard, pour le 16 décembre 1912. Pourquoi le 16 décembre ? Parce que c'est un lundi. Pourquoi un lundi ? Ça, c'est une petite finesse syndicaliste. Parce que le lundi, le taux d'absentéisme sur les chantiers et dans les usines est toujours plus élevé à cause de l'alcoolisme du dimanche. On appelait ça faire la Saint-Lundi. Donc quand vous convoquez une grève générale le lundi, vous êtes sûr de faire un score. Un score plus élevé. Et donc tous les délégués repartent du congrès confédéral dans leur province, dans leur ville, et ils ont 3 semaines devant eux pour réussir à organiser cette grève générale. Mais je vous rappelle qu'on est à un moment extrêmement tendu, parce qu'en France, on sait que la guerre peut éclater d'une semaine sur l'autre. Donc le gouvernement forcément va faire tout son possible pour mettre des bâtons dans les roues et pour intimider les militants, pour faire que cette grève générale soit un échec. Donc, on perquisitionne les bourses du travail, on perquisitionne les locaux syndicaux, il y a des arrestations, on arrête des militants anarchistes également, qui font des discours antipatriotes, voire il y a des préfets qui démettent certains maires socialistes de leur pouvoir de police, parce qu'ils soutiennent l'organisation de la grève, et puis on intimide les ouvriers des arsenaux notamment, on leur dit « si vous faites grève, vous serez révoqués ». Et donc, il y a une forte pression morale sur les militants. D'ailleurs, pour vous dire quel est le sentiment de proximité d'une guerre à ce moment-là en France, dans les coins les plus reculés, il y a un épisode très parlant, c'est celui d'Haracourt. Haracourt, c'est un petit village de Lorraine. Et dans cet intervalle de 3 semaines où on prépare la grève générale, suite à une erreur du receveur des postes, tous les villageois d'Arakour reçoivent leur ordre de mobilisation, comme si la guerre venait d'éclater. Et que font les villageois à ce moment-là? Est-ce qu'ils grognent? Est-ce qu'ils traînent les pieds? Est-ce qu'ils s'en soumettent? Eh bien, pas du tout. Comme un seul homme, ils sonnent le tocsin et ils vont à la caserne. Donc évidemment, toute la presse monte l'affaire en épingle et dit « Voilà, Arakour, c'est bien la preuve que les antimilitaristes sont impuissants, les antipatriotes ne pèsent rien, les vrais Français sont patriotes, ils défendront leur pays, etc. etc. » La presse d'extrême gauche est secouée, elle répond « C'est du bluff, c'est une légende. » Et pendant ce temps-là, les militants doivent continuer à la base à ramer pour organiser cette grève générale. Il faut savoir aussi que tous les militants de l'époque savent qu'ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils savent en fait, depuis mars 1912, suite à une maladresse, à un accident, a été révélée l'existence d'une liste noire secrète de l'ensemble des militants qui doivent être incarcérés, arrêtés, la veille ou le jour d'une déclaration de guerre. Cette liste noire, elle est connue sous le nom de carnet B. Chaque préfet est tenu de remplir et de tenir à jour cette liste noire de tous les militants de son département qu'il faudra arrêter au jour ou la veille d'une déclaration de guerre. Alors on saura en 1918 qu'en 1914, il y avait 1771 noms qui étaient inscrits dans ce carnet B. Mais à l'époque, les militants pensent qu'il y en a bien davantage. L'Humanité a publié en 1912 une estimation à 15 000 noms. Autant dire que tous les militants de l'époque sont convaincus que dès lors qu'on est un tout petit peu actif et un tout petit peu en vue, on est inscrit sur cette liste noire. Et que ce qui vous attend éventuellement en cas de déclaration de guerre, c'est la prison, voire le camp de concentration, puisqu'à l'époque ça existe. L'armée française en construira deux en 1913 pour parquer tous les gens suspects d'espionnage ou les possibles saboteurs de la mobilisation. Donc tous les militants savent qu'il y a ce risque mortel qui pèse sur eux, ils ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Malgré tout, malgré ce contexte extrêmement hostile, malgré toutes les intimidations et malgré la répression, ils organisent la grève générale et on arrive à cette date fatidique du 16 décembre 1912. 16 décembre 1912, c'est la grève et à la fin de la journée, on fait les comptes. On dénombre les grévistes. Alors comment faisait-on d'ailleurs pour dénombrer les grévistes à l'époque? Eh bien, il y avait une institution syndicale qui est tombée dans l'oubli aujourd'hui, qui a été réinventée lors des grèves de sans-papiers là, de 2008-2009. Et cette institution, c'est la carte de grève. Alors qu'est-ce que c'est une carte de grève? Une carte de grève, on en dit une pour les grandes occasions. Chaque 1er mai, par exemple, ou bien la grève générale du 16 décembre 1912, ou bien la grève générale du bâtiment parisien de l'été 1911. Et sur cette carte, si vous allez sur le blog du livre, vous en verrez une reproduction. Sur cette carte, on voit des slogans, les travailleurs n'ont pas de patrie, grève générale du 16 décembre 1912, il y a également un dessin antipatriote. Ça permet de dénombrer les grévistes, mais pas seulement. En fait, cette carte de grève, elle a une autre fonction. Elle a une fonction pour le coup d'intimidation des non-grévistes et des jaunes. Par exemple, si vous êtes un ouvrier du bâtiment, et que vous vous pointez sur un chantier parisien pour y trouver du travail, de l'embauche, vous avez des chances qu'il y ait 3 ou 4 militants qui viennent vous voir. Bonjour, salut, ça va, bienvenue. Alors au fait, est-ce que tu as ta carte de grève du 1er mai? Ou est-ce que tu as ta carte de grève du 16 décembre? Et là, si le type répond « Ah oui, alors non, en fait, je ne l'ai pas parce que voilà », là, il a toutes les chances que les militants lui répondent « Bah écoute, on est désolé, mais tu vas devoir trouver du travail ailleurs, parce qu'ici, nous sommes des ouvriers conscients et on ne travaille pas avec les jaunes. » Voilà, c'est pour vous dire un petit peu le niveau de discipline de classe qu'il pouvait y avoir à l'époque sur les chantiers parisiens, à l'époque de la toute-puissance, enfin pas de la toute-puissance, mais à l'époque où la Fédération du bâtiment était une organisation très puissante et où elle était l'épine dorsale d'ailleurs hein, du syndicalisme révolutionnaire et de la CGT. En tout cas, à cette fin de 16 décembre 1912, on compte les cartes. Et le résultat de la grève est, en réalité, mitigé. C'est pas un bide, mais c'est pas non plus un triomphe. Un journal de l'époque parlera avec honnêteté de un 1er mai un peu amélioré. Sans surprise, ce sont les corporations habituelles qui ont le plus fait grève, c'est-à-dire le bâtiment qui est traditionnellement l'avant-garde du prolétariat de l'époque, a fait grève complètement. Il y a également eu des bons résultats dans les métaux. La région parisienne a bien fait grève. La région lyonnaise a fait une des plus importantes grèves qu'elle ait jamais connues. Et puis après, sinon, ça va être les bastions industriels où la CGT est forte, les cuirépaux en Normandie, les ouvriers agricoles dans le Cher et dans certaines régions du sud de la France. Et puis, il y a également des bonnes surprises. Les bonnes surprises, ce sont les Ardennes, par exemple, qui est un département frontalier où traditionnellement on a peur des Allemands. Eh bien, les Ardennes ont été très grévistes. Mais la meilleure surprise, ce sont les mineurs. Les mineurs n'avaient pas menti. Effectivement, ils ont vraiment fait grève à 30, 50, voire 100% dans certaines régions. Le mouvement a été suivi. Et quelqu'un comme Émile Pouget, qui fait une analyse de cette journée, qui est l'analyse la plus intéressante, puisqu'il la décrypte vraiment corporation par corporation et région par région, Émile Pouget dit ça, c'est une excellente nouvelle, parce que sans charbon, il n'y a pas de guerre possible. Sans charbon, on ne fait pas avancer un cuirassé, on ne fait pas rouler un train. Sans charbon, pas de guerre possible. Et alors que l'ensemble des responsables syndicalistes s'efforcent de tirer des analyses, des bilans qui ne sont pas triomphalistes, mais qui ne sont pas non plus défaitistes sur les résultats de cette journée, Émile Pouget rend une conclusion un petit peu similaire, avec une formule assez bien trouvée. Il dit, cette journée n'a pas été à la hauteur de nos espoirs, la grève générale n'a pas été aussi générale que nous l'aurions souhaité, cependant, le gouvernement doit savoir à présent qu'il a face à lui une minorité révolutionnaire déterminée au sein de la classe ouvrière et que s'il s'avisait de faire la guerre, eh bien sa mobilisation générale à lui serait encore moins générale que notre grève générale à nous. Et c'était pour Pouget une pirouette, une façon de retourner un peu la question et évidemment de ne pas décourager les militants. Alors maintenant je vais sauter à la dernière étape. Juillet 1914, comme vous le savez, il n'y a pas eu de grève générale, il n'y a pas eu de soulèvement populaire contre la guerre. Alors pour quelles raisons? D'abord, il y a des raisons externes. Tout d'abord, la crise européenne a été extrêmement rapide. Tout se joue en 10 jours. Entre l'ultimatum autrichien à la Serbie et la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France, il y a à peu près 10 jours qui s'écoulent. Ça laisse peu de temps pour réagir. Mais il y a également l'habileté du gouvernement de l'époque. Le gouvernement français est un gouvernement de gauche, au sens où le PS actuel est de gauche, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est un gouvernement radical. Mais le président du Conseil, c'est René Viviani. René Viviani, c'est l'ancien bras droit de Jaurès. Il a abandonné le socialisme pour faire une carrière ministérielle. Mais les liens d'amitié ont demeuré, et en juillet 1914, il va beaucoup utiliser ces liens pour intoxiquer le PS et lui distiller des informations intéressées de façon à maintenir l'ordre intérieur. Parce que c'est la seule chose qui intéresse le gouvernement français. Alors que la guerre menace d'éclater entre l'Autriche et la Russie, le gouvernement français ne fait rien pour freiner son allié russe. Tout ce qui l'intéresse, c'est de maintenir l'ordre intérieur pour se préparer au pire. Et pour maintenir l'ordre intérieur, il y a deux façons de faire. D'une part, contre les syndicalistes et les antimilitaristes et les anarchistes, on use de la matraque. Il y a une grande manifestation pacifiste qui se tient le 27 juillet au soir dans les rues de Paris, pendant toute la nuit d'ailleurs. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui manifestent, qui se font matraquer par la police très violemment. Et puis, vis-à-vis du Parti Socialiste, on va user de l'intoxication et on va leur dire « mais ne vous inquiétez pas ». La diplomatie étant ce qu'elle est, la crise européenne va encore durer au moins 20 jours, 30 jours. Il n'y a aucune raison de vous alarmer. Vous avez tout le temps d'organiser des manifestations plus tard, mais pour l'instant, ce serait prématuré. Le gouvernement français dit au Parti Socialiste, nous agissons pour la paix. Nous agissons pour la paix, nous freinons les Russes, ce qui est complètement faux. Le gouvernement français ne fait rien. Mais le Parti Socialiste est intimement convaincu que le gouvernement français, du coup, fait quelque chose. Il y a d'ailleurs un discours de Jaurès qui est assez connu. Le 28 juillet, il est à Bruxelles Et il y a un grand meeting du Bureau Socialiste International où Jaurès, devant la foule, tient un discours où il dit « Nous, socialistes français, nous n'avons pas à imposer une politique pacifiste à notre gouvernement. Il la pratique. » C'est-à-dire que le PS agit en soutien au gouvernement. À ce moment-là, il est déjà... le PS est en quelque sorte dans l'union sacrée pour la paix avec le gouvernement. Ce sera le prélude, on le verra par la suite, à l'union sacrée pour la guerre. Et le gouvernement se sert également du PS pour distiller de l'intoxication en direction des syndicalistes. Par exemple, le 28 juillet au soir, c'est le premier comité confédéral de la CGT qui se tient depuis le début de la crise. Mais le comité confédéral n'a pas démarré depuis 20 minutes que le téléphone sonne. On appelle Léon Jouot, le secrétaire. Il y va, il revient. Un journaliste de l'Humanité vient de lui expliquer que de sources gouvernementales sûres, le lendemain matin à 6h, il y aurait une rafle de 600 à 800 militants sur la base du Carnet B. Donc Léon Jouot annonce ça au comité confédéral. Autant vous dire que ça refroidit l'ambiance, parce que, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la CGT n'est pas sûre de parvenir à soulever le peuple et à réussir la grève générale si elle y appelle. Donc ça refroidit l'ambiance. Et puis il y a également ce même jour, 28 juillet, un fait qui est célèbre. Au Conseil des ministres, le ministre de la guerre, Adolphe Messimi, interrogé par ses pairs sur la possibilité qu'il y ait des sabotages ou des résistances à la mobilisation, Adolphe Messimi répond: moi, c'est simple, vous me donnez la guillotine, je vous garantis la victoire. Et aussitôt, l'information fuite en direction des milieux syndicalistes. Donc, toute cette pression-là existe aussi sur la CGT. Intoxication d'une part, matraque de l'autre, le gouvernement français réussit assez bien à tenir son jeu. Mais si la CGT échoue à être dans l'action en juillet 1914, ce n'est pas uniquement pour ces raisons externes, il y a aussi une raison interne. Et la raison interne, c'est qu'en fait, en 1914, la CGT est très affaiblie. Elle a subi une véritable crise d'effectifs très importante. Elle a perdu, on estime, la moitié de ses effectifs depuis l'été 1911. Elle a subi une crise morale et une violente zizanie en son sein sur la question des orientations syndicales. Alors, qu'est-ce que c'est que cette crise d'effectifs? Qu'est-ce que c'est que cette crise morale? Eh bien, je vais revenir un an, même un an et demi, un peu en arrière pour vous l'expliquer. Je reviens en janvier 1913. Janvier 1913, c'est le moment où le gouvernement français décide de réformer le service militaire et d'allonger le service militaire à un an, pour le porter à 3 ans. Il avait été réduit à 2 ans en 1905. En 1913, le gouvernement décide de le remettre à 3 ans. Ça permet d'avoir donc 160 000 hommes de plus en permanence sous l'uniforme. Aussitôt, tout le mouvement ouvrier, les anarchistes, les socialistes, les syndicalistes, se mobilisent contre ce projet de réforme de la loi de 3 ans, parce qu'il est vu évidemment comme une nouvelle loi de militarisation de la société et comme un nouveau pas vers la guerre. Et la campagne contre la loi de 3 ans va dominer tout le premier semestre 1913. Ça va être quelque chose d'assez intense. Il y aura ces fameux grands rassemblements populaires au Pré-Saint-Gervais, qui est une petite commune de l'Est parisien, dont on a gardé d'ailleurs quelques traces dans la mémoire, puisque par exemple, si vous connaissez cette photo très connue de Jaurès où il parle devant une foule sous un drapeau rouge en plein air, cette photo a été prise en mars 1913 au Pré-Saint-Gervais. Alors comment ça se passe d'ailleurs ces grands raouts pacifistes du Pré-Saint-Gervais où il peut y avoir 100 000, 150 000, 200 000 personnes, c'est considérable, à une époque où la sonorisation n'existe pas? Eh bien, ça, je le raconte pas mal dans le livre parce que c'est assez coloré, quoi, c'est assez intéressant. Eh bien, à l'époque, les journaux ouvriers, donc par exemple l'Humanité, la Bataille syndicaliste, fixent les rendez-vous à tout l'ensemble des sections socialistes, des syndicats. Les anarchistes fixent leurs propres rendez-vous, les ménagères fixent leurs propres rendez-vous. On se retrouve au métro. Bon. Et puis, de tout Paris, on converge vers les portes de Paris. À l'époque, Paris est encore ceinturé par des murailles, des fortifications. Et donc, il y a des portes. On doit passer la porte qui est gardée par des policiers et par des dragons à cheval et qui surveillent qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Et on passe les portes avec le drapeau roulé, plié. Parce que depuis la Commune de Paris, il est interdit de déployer le drapeau rouge et a fortiori le drapeau noir dans l'enceinte de la capitale. Une fois qu'on a franchi les portes, on peut déplier le drapeau rouge. Là, on se retrouve dans ce qu'on appelle à l'époque la zone. La zone, c'est une sorte de zone inconstructible autour des fortifs où en fait, il y a plus ou moins des bidonvilles. Bon. Et les militants peuvent partir en cortège vers le terrain vague du Pré-Saint-Gervais, ce terrain vague qu'on appelle la butte du Chapeau Rouge. Et là, ils y arrivent et ils y sont accueillis, par exemple, par la fanfare de la bataille syndicaliste et la fanfare de la Bellevilloise qui joue, par exemple, Gloire au 17e, l'International, des choses comme ça, des grands hymnes révolutionnaires. Et sur la butte du Chapeau Rouge, ils trouvent quoi ? Non pas un grand podium sonorisé comme on trouverait aujourd'hui, ils trouvent 15 tribunes disséminées, qui sont des tribunes montées sur de simples chariots, hein, surmontées d'un mât. Et quand on hisse le drapeau rouge, c'est le signal du début des discours. Et là, vous avez 6, 7 ou 8 orateurs qui vont se relayer pour parler à la foule et faire des grands discours et donner les mots d'ordre. Voilà. On hisse le drapeau rouge sur 14 tribunes et sur la 15e, on hisse le drapeau noir parce que c'est la tribune qui est dévolue à la Fédération communiste anarchiste. Et d'ailleurs, André Breton, le pape du surréalisme, dans les années 40-50, il écrira dans un article dans Le Libertaire que lui, enfant, adolescent, il a participé à un de ses grands raouts au Pré-Saint-Gervais et que lui avait été justement à la tribune surmontée du drapeau noir pour écouter les discours des orateurs de la Fédération communiste anarchiste. Donc voilà, vous avez ce premier semestre 1913 qui est dominé par cette grande campagne contre les 3 ans. Des raouts, comme je vous ai évoqué, il y en aura 3 ou 4 au total. Et puis cette campagne, elle va avoir des répercussions dans la population, des répercussions réelles, et ça on en a un indice par un événement totalement oublié aujourd'hui dans l'histoire de France et dans l'histoire du mouvement ouvrier, de l'antimilitarisme ou quoi que ce soit, c'est la vague de mutinerie dans les casernes en mai 1913. Alors quand je parle de mutinerie, j'exagère un tout petit peu, la presse de l'époque a qualifié ça de mutinerie, en réalité il s'agissait davantage d'une vague d'agitation qui a touché une vingtaine ou une trentaine de casernes. Pourquoi cette vague d'agitation ? Et bien tout simplement parce que les jeunes appelés, qui étaient partis à la caserne pour faire 2 ans de service militaire, quand on leur a dit en cours de route qu'ils allaient faire un rap de 1 an, et bien ça a provoqué beaucoup de mécontentement. Et il y a eu donc une vague d'agitation qui a pris différentes formes selon les endroits. Alors par exemple, on défie un peu les officiers, on chante l'International, on crie à bas la guerre, à bas les 3 ans, on retourne les chambrées, on fait des défilés dans la cour de la caserne en chantant l'International, on brandit la bataille syndicaliste ou l'humanité. Mais ça ne prend pas le caractère d'une mutinerie au sens où les soldats ne mettent pas la crosse en l'air et ils ne braquent pas les fusils sur les officiers. Là où ça allait le plus loin, c'est à Toul et à Rodez notamment, où les conscrits ont forcé les portes de la caserne, ils ont bousculé les officiers, ils sont égaillés dans la campagne aux alentours et il a fallu faire appel à la gendarmerie pour les ramener dans la caserne. Dans la France de 1913, qui prépare la guerre, qui est en plein réarmement moral, où l'armée est censée être redevenue le pilier de la nation, ça crée forcément un scandale. Et la presse fait ses gros titres dessus et réclame des comptes au gouvernement. Le gouvernement nomme une commission d'enquête, qui est confiée à un général, le général Pau, qui fait un simulacre d'enquête et qui rend une conclusion qui ne pouvait pas être différente de ce qu'elle a été, et qui dit en substance, ces mutineries ne sont pas un mouvement social mené par de jeunes appelés innocents. Il s'agit d'un complot politique fomenté de l'extérieur. Devant le Sénat, le président du Conseil, Bartou, déclare solennellement « Nous allons mener l'enquête et nous allons remonter jusqu'à l'organisation coupable. » Et bien évidemment, l'organisation coupable, je vous le donne en 1000, c'est la CGT et les anarchistes. Donc le mois de juin 1913 va être marqué par une vague de répression en 2 temps, extrêmement violente, la plus violente qu'ait connue la CGT, où dans 88 villes, toutes les bourses du travail, les locaux syndicaux, les locaux des journaux, les logis de certains militants à 6h du matin vont être perquisitionnés, voire mis à sac. La police va mettre la main sur tout ce qu'elle va pouvoir trouver pour, comme pièce à conviction pour monter un dossier à charge, un dossier de complot contre la sûreté de l'État ou trahison nationale. C'est une période dure où, à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui réclament la dissolution de la CGT, cette officine de trahison nationale. Donc la CGT subit cette vague de répression extrêmement dure, les policiers mettent la main évidemment sur tout un tas de pièces à conviction, notamment les circulaires du sou du soldat, dont je vous ai parlé au début, et puis c'est confié à un juge, qu'on appelle, qui est le juge Drioux en fait, que les militants de l'époque surnomment le juge à tout faire, parce que c'est généralement lui qui instruit les affaires contre les militants révolutionnaires. Et le juge Drioux, eh bien, au bout de quelques jours, il a son dossier qui est prêt et il fait procéder à une rafle de 22 militants, donc 20 responsables de la CGT, notamment du bâtiment, et 2 militants de la FCA qui vont être inculpés pour menées anarchistes. Alors, menées anarchistes, de quoi s'agit-il? Ça veut dire qu'en fait, les militants tombent sous le coup des lois scélérates de 1894. Les lois scélérates, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lois antiterroristes qui ont été votées un peu dans la panique par l'Assemblée nationale en 1893-94, au moment où il y avait les attentats anarchistes. Ravachol, Cazériaux, Vaillant, etc. Et, comme toute loi antiterroriste, ce sont essentiellement des lois liberticides qui visent à amenuiser les droits de la défense. De quelle façon est-ce qu'elles amenuisent les droits de la défense? De tout un tas de façons, mais il y en a deux qui intéresse particulièrement l'État et les militants de l'époque. La première, c'est que quand vous tombez sous le coup des lois scélérates, vous n'êtes pas jugé en cour d'assises, vous êtes jugé en correctionnel. Pourquoi? Parce qu'en cour d'assises, le verdict sera rendu par un jury populaire qui éventuellement peut être indulgent, voire vous acquitter. Quand vous êtes jugé en correctionnel, vous êtes face à des magistrats professionnels qui vont vous condamner sans coup férir. Deuxièmement, sur requête des pouvoirs publics, la presse peut se voir interdire de reproduire les paroles et les propos de la défense et des accusés. Alors que tous les militants de l'époque utilisent les procès comme tribune politique pour faire passer leurs idées, eh bien là, grâce aux lois scélérates, vous pouvez être condamné quasiment à huis clos, dans le silence, à coup sûr. Et en réalité, l'État français a réactivé ces lois scélérates lors du coup d'Agadir, à l'été 1911. Ces lois étaient tombées un petit peu en désuétude au début des années 1900. À partir de l'été 1911, l'État les réactive et les utilise systématiquement pour frapper les militants syndicalistes, antimilitaristes et antipatriotes. Il y a eu ainsi, à l'été 1911, alors qu'il y avait une grande grève du bâtiment parisien qui se déroulait en même temps que le coup d'Agadir, arrestation de 3 responsables du bâtiment parisien qui vont être inculpés de menées anarchistes. C'est ce qu'on appelle la première affaire du sou du soldat, puisqu'ils étaient inculpés en raison des circulaires du sou du soldat qu'envoyaient les syndicats parisiens du bâtiment. L'année suivante, en 1912, il y aura la deuxième affaire du sou du soldat, avec 18 militants du bâtiment inculpés. Et puis là, on arrive donc en juillet 1913, avec la troisième affaire du sou du soldat, avec 22 militants inculpés. À ce moment-là, en juillet 1913, face à cette vague de répression, la CGT se trouve face à une alternative. Soit elle durcit le bras de fer, soit elle fait le dos rond. Mais qu'est-ce qu'elle choisit? Elle va choisir de faire le dos rond. Ce qui va provoquer une crise au sein de la CGT extrêmement violente. Le drame se noue lors de la conférence nationale du 13 juillet 1913. Il y a de nouveau une conférence nationale, et là, à ce moment-là, à cette conférence nationale, la gauche de la CGT met une proposition sur la table, par la voix d'un militant très connu, qui n'est autre que Benoît Broutchou, l'ancien animateur des syndicats de mineurs révolutionnaires du Pas-de-Calais. Et Benoît Broutchou déclare à l'Assemblée, à l'ensemble donc des 50-60 délégués de toute la CGT qui sont là, il dit voilà, le gouvernement a lancé un défi à la classe ouvrière. Il faut lui répondre. Pour cela, il nous faut préparer une grève générale pour le 24 septembre 1913. Pourquoi le 24 septembre? Parce que c'est la date théorique de libération de la classe. Celle qui était censée faire 2 ans et à laquelle on promet d'en faire 3. Et Broutchou dit, si au 24 septembre 1913, le gouvernement ne libère pas les appelés, il y aura de nouvelles mutineries. C'est quasiment sûr. Et s'il y a de nouvelles mutineries, il faut que les mutins rencontrent l'action de la classe ouvrière en grève générale pour eux et pour défendre ces militants derrière les barreaux. Nous avons peut-être devant nous une situation pré-révolutionnaire, voire révolutionnaire. Voilà ce que Brouchou déclare à l'Assemblée. Le problème, c'est que là, pour la première fois, cette proposition n'est pas reçue du tout favorablement et que c'est plutôt des murmures de désapprobation, des soupirs d'agacement qui montent de la salle. Et la plupart, la grande majorité des délégués présents disent non, 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 stop, arrêtez, arrêtez, ne nous demandez pas de faire une nouvelle fois une grève générale, nous n'en avons pas les moyens, nous n'en avons plus les moyens, et si nous le faisions, nous tuerions nos organisations, donc non, nous ne le ferons pas, nous ne ferons pas la grève générale le 24 septembre 1913. Un autre anarchiste, qui est beaucoup moins connu que Brouchou, qui s'appelle Arthur Marchand, qui est le délégué de la Fédération du Tonneau, remet la question sur le tapis en disant « Mais quand même, si on ne fait rien, on va se ridiculiser. » Et là, sentant l'ambiance, sentant que l'ambiance lui est favorable, le secrétaire des métaux, Alphonse Mérem, qui est en réalité la véritable tête pensante de la CGT à l'époque, interrompt brutalement Arthur Marchand et lui dit « Mais enfin, ce qui est ridicule, c'est de faire ce genre de proposition. » Quand est-ce que vous allez cesser vos enfantillages? Quand est-ce que vous allez cesser vos idioties? Quelle est la valeur d'un poing que sans cesse on brandit et qui jamais ne frappe? Et la salle approuve bruyamment Mérem. Donc, il n'y aura pas de grève générale le 24 septembre 1913. Les délégués se séparent là-dessus. Mais ça va être le point de départ d'un divorce et d'une crise virulente entre la direction confédérale de la CGT et la gauche de la CGT. Parce que les anarchistes et syndicalistes révolutionnaires ultra, qui sont assez influents dans certains, notamment dans les syndicats du bâtiment de la Seine ou dans certains syndicats des métaux, vont commencer à lancer une polémique contre la direction confédérale en disant en substance « Vous avez failli, vous avez trahi la ligne syndicaliste révolutionnaire alors qu'il y avait peut-être une situation révolutionnaire face à nous. Vous êtes en train de recentrer la CGT. » Vous êtes en train de rectifier son tir, et ça, nous ne l'accepterons pas, nous ne vous suivrons plus, nous ne vous croirons plus, la polémique est très virulente. L'un des porte-voix d'ailleurs de la polémique, c'est le Libertaire, l'hebdomadaire de la Fédération communiste anarchiste, où tous les militants de la gauche de la CGT publient leurs articles de polémique et leurs articles d'attaque contre la direction confédérale. La polémique va être très dure et elle va dominer tout le second semestre 1913 au sein de la CGT et le début de l'année 1914. Polémique très violente qui va d'ailleurs libérer en quelque sorte tout un tas d'autres sujets qui étaient sous-jacents en fait, où il y avait un certain malaise. C'est comme si une digue s'était rompue et on met tout sur la table. Alors il y a notamment un sujet qui va être crucial, c'est la question du fonctionnarisme syndical. À l'époque, on ne dit pas bureaucratisation, on parle du fonctionnarisme syndical et du péril fonctionnariste qui menace la CGT. Parce que les militants de la gauche de la CGT disent « c'est parce que nous avons des fonctionnaires syndicaux à la Confédération et dans les directions fédérales qui sont là depuis trop longtemps, qui sont inamovibles, ils se sont encroûtés et c'est à cause de ça que la CGT rectifie son tir, c'est à cause de ça que la CGT se recentre, donc il ne faut plus de fonctionnaires syndicaux, ou alors il faut instaurer le remplacement automatique des fonctionnaires. » Bon, il y a tout un débat très virulent qui se déroule sur cette question-là. Il y a un autre débat, qui est celui carrément de l'orientation de la CGT, de ce qu'elle fait. À l'époque, la CGT, elle distingue deux formes d'action dans ce qu'elle fait. Il y a ce qu'elle appelle l'action sociale. Alors ça, l'action sociale, c'est antimilitarisme, antipatriotisme, des choses comme ça. Et puis, il y a l'action corporative. L'action corporative, c'est l'action sur le terrain économique, temps de travail, salaire, toutes ces choses-là. Et les dirigeants de la CGT, les dirigeants des fédérations disent nous sommes en crise comme ça, c'est parce que la CGT a fait trop d'action sociale, elle s'est éloignée de ses fondamentaux, et il faut qu'elle revienne à faire quand même davantage d'actions corporatives, parce que là, nous avons perdu trop de monde, trop d'effectifs, trop de syndiqués, ce qui est une réalité. C'est une réalité. Si la direction de la CGT ou la majorité syndicaliste révolutionnaire de la CGT, en juillet 1913, se sent impuissante à appeler à une grève générale le 24 septembre, c'est pas seulement parce que il y a des fonctionnaires syndicaux qui sont encroûtés. C'est parce qu'effectivement, elle traverse une véritable crise d'effectifs. Il y a un problème authentique, effectivement. Il y a un problème authentique. Par exemple, la Fédération du bâtiment, qui, je vous l'ai dit, était l'avant-garde du prolétariat, la fédération la plus puissante, toujours en lutte, toujours en grève, l'épine dorsale de la CGT. La fédération du bâtiment a atteint son apogée à l'été 1911. Elle a fait une grande grève générale de tout le bâtiment parisien à l'été 1911, qu'elle a perdue. Et depuis cette date, ses effectifs ont décliné. Elle n'a pas réussi à se ressaisir. La fédération des métaux, qui est une autre fédération importante, révolutionnaire, elle a un autre problème. Elle, c'est une véritable passoire. Elle n'arrive pas à fixer ses syndicats. Il y a des syndicats qui se créent, d'autres qui se détruisent, mais elle a un véritable problème. Elle n'arrive pas notamment à faire face aux évolutions du capitalisme français et notamment à cette nouveauté que constituent les usines géantes. Elle n'arrive pas à s'y implanter durablement. Il y a en 1913 trois grandes grèves comme ça dans l'industrie automobile française et dans l'industrie navale. Il y a des chantiers navals, il y a les usines Renault à Billancourt et puis il y a des usines automobiles dans le nord de Paris, j'ai oublié le nom, qui font des milliers de jours de grève. Ce sont des grèves énormes et elles sont perdues. Et les syndicats, dans ce cas-là, disparaissent, ils s'écroulent, quoi. Donc la Fédération des métaux, elle aussi, est en difficulté. Cette crise d'effectifs, elle se noue aussi parce que, eh bien, tout simplement, les syndicats les plus combatifs, les plus révolutionnaires de la CGT, depuis l'été 1911, ils ont eu beaucoup de mal à mener cette action corporative, tout simplement parce qu'ils ont été accaparés réellement par la lutte contre la guerre et contre le militarisme. Ils ont passé leur temps, notamment les syndicats les plus révolutionnaires, à se battre contre les lois de militarisation et à se battre pour défendre leurs militants derrière les barreaux parce qu'ils subissent une répression constante. Et par exemple, la CGT, en 1911, a décidé de mener une grande campagne pour ce qu'ils appelaient la semaine anglaise. Ça devait être une revendication stratégique, unifiante pour la CGT. La semaine anglaise, c'est 44 heures de travail avec libération du samedi après-midi. Eh bien, la CGT se trouve dans l'incapacité de mener réellement cette campagne sur le terrain, malgré qu'elle l'ait adoptée, parce que ces syndicats ont la tête ailleurs. Ils passent leur temps à se battre, effectivement, contre la guerre, contre le militarisme. Donc c'est un véritable problème qu'elle doit affronter à ce moment-là. Tout cela pour dire que, avec cette crise d'effectifs, cette crise morale, cette zizanie qui ronge la CGT tout au long du second semestre 1913 et du début de l'année 1914, la CGT arrive, face à la crise de juillet 1914, dans un état, c'est sans doute le plus mauvais moment pour elle, en fait, pour affronter une crise européenne et une nouvelle menace de guerre. Et il est sûr qu'en juillet 1914, si la CGT a été impuissante à partir dans l'action contre la guerre, c'est en bonne raison aussi parce qu'elle a été cueillie au pire moment pour elle. Voilà. Alors je vais juste prendre 10 minutes de plus, 15 minutes de plus, pour vous parler d'une autre chose qui est très importante dans le livre, parce qu'en fait c'est le fil rouge du récit, ce sont les anarchistes. Les anarchistes, ils fondent, fin 1910, la première organisation libertaire en France, qui s'appelle la Fédération communiste anarchiste. Petite organisation qui regroupe quelques dizaines de militants au départ, puis qui va connaître un développement tout au long de cette période et qui est peut-être à son apogée en août 1913, comptera jusqu'à un millier d'adhérents, je pense. Cette fédération communiste anarchiste, elle a sa propre stratégie de lutte contre la guerre, qui est totalement imbriquée en fait dans celle de la CGT. Cette stratégie de lutte, c'est partant de l'idée qu'il y aura la grève générale et un soulèvement populaire en cas de guerre, la FCA dit « eh bien nous saboterons la mobilisation ». Ils s'engagent carrément à saboter la mobilisation, et ça veut dire saboter les rails de chemin de fer, notamment de la gare de l'Est et de la gare de Pantin, qui sont ceux qui envoient les soldats vers le Rhin, saboter les viaducs, saboter les tunnels, couper les fils télégraphiques, et puis, dans la confusion créée, eh bien, neutraliser les pouvoirs publics, et puis faire l'insurrection révolutionnaire. Leur idée est que la guerre est un moment de basculement possible dans la Révolution. Ça peut paraître un petit peu irréaliste, dit comme ça, pour une petite organisation qui, au moment où elle adopte cette stratégie de sabotage de la mobilisation, à l'été 1911, compte quelques centaines d'adhérents. C'est pas si irréaliste si on se replace dans le contexte de l'époque et dans le fait qu'en réalité, la FCA se situe, quand elle parle de sabotage, elle se situe dans la continuité de quelque chose qui a fortement marqué les années 1909-1910, qui est le sabotage ouvrier. En 1909, il y a la grande grève des PTT. En 1910, il y a la grande grève du rail. Et à ce moment-là, lors de ces deux grèves et dans les mois qui suivent ces deux grèves, Il y a des milliers d'actes de sabotage dans toute la France, notamment dans les régions où l'anarchisme est bien implanté. La nuit, il y a des militants qui sortent en équipe, qui grimpent au poteau et qui sectionnent les fils télégraphiques. Donc, il y a des milliers de lignes qui tombent comme ça pendant des mois. Et c'est une façon de faire pression sur le gouvernement pour qu'il cède aux grévistes. Et puis après la fin de la grève, c'est une façon de faire pression pour que le gouvernement réintègre les grévistes révoqués. Et donc ce sabotage ouvrier, alors on ne sabote pas que des fils télégraphiques, on sabote aussi des wagons, bon, il y a toute une vague de sabotage. Et donc ce sabotage ouvrier, finalement, la FCA, en parlant de sabotage de la mobilisation en 1911, elle s'inscrit dans cette continuité, parce que tous les militants de la FCA, ils ont participé en fait à ce genre d'action, de pratique. Ce qui est assez, par contre, extraordinaire, c'est que la FCA ne cache nullement cette intention de saboter la mobilisation. Non seulement elle ne la cache pas, mais elle en fait la promotion publiquement. C'est-à-dire qu'elle l'imprime dans ses journaux, elle l'imprime sur des affiches. Il y a des affiches de la FCA, si vous allez sur le blog, vous les verrez. Si la guerre éclate, ce que nous ferons, deux points, et ils promettent sabotage de la mobilisation. Ils le disent dans des meetings. Il y a un grand meeting en novembre 1912 à la salle des sociétés savantes à Paris, où devant 1200 personnes, alors qu'on est en novembre 1912 vraiment à l'acmé de la crise européenne des Balkans, où un orateur de la FCA, Édouard Boudot, explique au public comment on sabote un canon de 75, comment on neutralise une locomotive, comment on sectionne des fils télégraphiques, etc., etc. Donc évidemment, si on veut attirer sur soi les foudres de la répression, il n'y a pas de meilleure façon de le faire. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Et pendant toute la fin de l'année 1912 et durant l'année 1913, la FCA va subir une répression intense. J'ai d'ailleurs à un moment donné fait un petit calcul dans le bouquin pour calculer la durée de vie moyenne d'un secrétaire de la FCA. Et quand vous regardez, la durée de vie moyenne, c'est 4 mois. C'est-à-dire qu'entre le moment où il est élu secrétaire de la FCA et le moment où il se retrouve en prison ou en exil à l'étranger, il se passe environ 4 mois en moyenne. Idem pour le gérant du Libertaire, l'hebdomadaire de l'organisation, qui dure à peu près 3-4 mois avant de se retrouver également traîné en justice. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que malgré tout, malgré cette répression constante, la FCA va réussir pendant longtemps à trouver en son sein, toujours, des volontaires qui sont prêts à prendre le poste le plus exposé pour remplacer le camarade qui vient de tomber. Alors ça en dit long, je pense, d'ailleurs, sur l'idéalisme ou au fanatisme, d'une certaine façon, de pas mal de militants. Un des plus connus, d'ailleurs, secrétaire de la FCA, c'est n'est autre que Louis Lecoing, hein, qui, à l'époque, est très loin de l'apôtre de la non-violence et du pacifisme qu'on connaîtra plus tard. Louis Lecoing, à cette époque-là, c'est un jeune ouvrier révolutionnaire, complètement tête brûlée, et qui est secrétaire de la FCA pendant 4 mois, entre deux périodes de prison. À partir du courant 1913, la FCA va mettre un tout petit peu d'eau dans son vin, parce qu'elle commence à avoir du mal à trouver des volontaires pour se sacrifier. Et elle va non pas changer de ligne, hein, elle va rester sur la ligne du sabotage de la mobilisation, mais au lieu d'en faire la promotion publique, elle va faire campagne clandestinement. Pour cela, elle va rédiger une petite brochure qui s'appelle « En cas de guerre », que la police surnommera la brochure rouge, de la couleur de sa couverture. Cette brochure a vraisemblablement été rédigée en prison par un groupe de militants de la FCA qui étaient emprisonnés à la prison de la Santé, dont la police estimait que c'était en fait le cerveau réel de l'organisation, ce qui est tout à fait possible, hein, effectivement, qui a rédigé cette brochure. Et cette brochure va être imprimée dans une petite imprimerie discrète qui était à quelques dizaines de mètres du siège de la FCA. Hein. La FCA avait une imprimerie officielle et une imprimerie clandestine, quoi, en quelque sorte. Et cette brochure va être imprimée là à 2000 exemplaires. Et elle va être distribuée sous le manteau à des dizaines de groupes anarchistes et de syndicats révolutionnaires dans le pays, grâce à une combine. En fait, la FCA avait deux militants qui étaient salariés dans une entreprise tout à fait respectable, qui était une sorte d'imprimerie qui imprimait des tableaux d'honneur pour ouvriers méritants, des choses comme ça. Donc quelque chose de parfaitement respectable. Et bien là, ils ont offré du patron, dans des colis indécelables, envoyé de cette façon-là des dizaines de colis, de brochures dans tout le pays, aux groupes anarchistes et aux syndicats révolutionnaires. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette brochure ? Eh bien, on trouve tout un tas de choses. C'est une sorte de manuel insurrectionnel. On y trouve aussi bien des conseils politiques, par exemple, en cas de révolution, puisque donc l'idée c'est que si la guerre éclate, c'est le moment propice pour faire la révolution. Donc en cas de révolution, Eh bien, par exemple, le rôle des militants révolutionnaires, c'est de s'opposer à la constitution d'un gouvernement provisoire, dont la première tâche sera d'essayer de ramener l'ordre. Il y a également des conseils techniques, hein, de techniques insurrectionnelles, où l'on explique par exemple que l'ère des barricades est révolue, hein, c'est plus la Commune de Paris, donc il ne faut pas faire de barricades, ça ne sert à rien. Il y a d'autres techniques, on conseille par exemple de dépaver les rues en damier, de façon à stopper les charges de cavalerie. Et puis il y a également des recettes d'explosifs, des recettes de sabotage diverses. Voilà. Donc ce manuel, qui est un manuel insurrectionnel, quand on l'analyse, c'est très intéressant, il en dit long sur l'imaginaire des révolutionnaires de l'époque. C'est une sorte de synthèse, en fait. C'est un manuel insurrectionnel adapté à l'ère du syndicalisme révolutionnaire. Et c'est une sorte de synthèse entre les leçons qu'on a tirées de la Commune de Paris, les leçons qu'on a tirées de la Révolution russe de 1905, une forme de blanquisme, et puis le sabotage ouvrier des années 1909-1910. On trouve un peu tout ça. La police, malgré le fait qu'elle quadrille de près quand même la FCA, ne a pas décelé cette brochure et va mettre des mois à découvrir le poteau rose. Mais la FCA, c'est dire aussi l'habileté de certains de ses militants, sachant qu'il y avait des indicateurs en son sein, ils ont malgré tout réussi à réaliser cette brochure discrètement, à l'imprimer en toute discrétion et à la distribuer en France sans que la police découvre ce qui se passait. Voilà. Néanmoins, arrivé en juillet 14, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il n'y a pas la grève générale, il n'y a pas le soulèvement populaire escompté et que du coup, la stratégie de sabotage de la mobilisation tombe d'elle-même, n'est pas appliquée. Et les militants anarchistes se retrouvent un peu sur le sable. Hein. Voilà. Alors, sachant que le carnet B va être appliqué, certains vont décider néanmoins de passer à la clandestinité. Alors certains ne vont pas avoir le temps. Hein. Dans le Pas-de-Calais, il y aura une rafle de tous les militants anarchistes. Mais globalement, il faut savoir que le carnet B ne sera pas appliqué. Hein. Le gouvernement, avec habileté, voyant qu'il n'y aurait pas de grève générale, va éviter de faire des martyrs. Et donc, le ministre de l'Intérieur va donner l'ordre au préfet de ne pas l'appliquer, à l'exception des cas les anarchistes les plus dangereux qui seraient arrêtés. Le préfet du Pas-de-Calais, par exemple, lui, il a fait le choix d'arrêter tous les anarchistes. Dans d'autres régions de France, par exemple à Brest ou à Saint-Étienne, les groupes anarchistes passent à la clandestinité, dans l'idée qu'il risque d'y avoir des arrestations. Et puis en réalité, au bout de quelques jours, quand ils se rendent compte qu'il n'y a pas de soulèvement populaire, pas de grève générale, et qu'en fait la police ne les recherche même pas, eh bien, ils vont tout simplement rentrer à l'atelier, à l'usine, la queue entre les pattes, et puis, pour la plupart d'entre eux, ils vont répondre à l'appel, et ils vont monter au front. Tous ne partiront pas, néanmoins. Il y a un certain nombre de militants, à ce moment-là, qui désertent, hein, qui passent à l'étranger, en Espagne, en Suisse, en Grande-Bretagne. De façon paradoxale, la Grande-Bretagne ne livrera jamais les déserteurs français réfugiés sur son sol. Elle ne les livrera pas au gouvernement français. Mais il y a également tout un tas de militants qui échappent à la guerre parce qu'ils sont en prison. Notamment, la plupart des responsables de la FCA qui sont en prison à ce moment-là échappent à la guerre parce qu'ils sont derrière les barreaux. Et puis, il y a également, en fait, tout un tas de militants qui échappent à la guerre parce qu'à cette époque-là, la classe ouvrière est pleine de boiteux, bigleux, tuberculeux. Hein, on n'a pas souvent en grande forme dans les milieux ouvriers. Et pas mal de militants, en fait, vont échapper à la guerre par ce biais-là. Et c'est pas rien parce qu'en fait, ce sont les militants réformés et les militants en prison qui vont constituer ensuite, pendant la guerre, l'armature de la minorité pacifiste qui va s'opposer à l'Union sacrée et qui va s'opposer à la guerre. Voilà. Il y aura également des militants, mais ils sont moins nombreux, qui vont se rallier à l'Union sacrée. En fait, pour la FCA, on en connaît un, notamment, c'est Georges Durupt, qui est réfugié en Suisse et qui se rallie à l'Union sacrée. Mais sinon, il faut bien dire que... Bon, il y a aussi plein de militants qui sont tout simplement totalement écœurés, désillusionnés, découragés, réduit en poussière moralement, comme le dira Raymond Perica, l'ancien secrétaire du bâtiment, et qui vont abandonner tout militantisme et qui vont juste faire la guerre et ne plus jamais se mêler de politique. Mais ce qui est important, c'est que, et ça je le raconte en épilogue du livre, hein, parce que bon, la guerre c'est quand même autre chose, j'ai pas étudié ça, mais ce que je dis bien en épilogue du livre, c'est que la postérité de la FCA ne se réduit pas simplement à diverses trajectoires individuelles, certains qui se sont reniés, puis certains qui ont résisté à la guerre. Il y a effectivement des trajectoires individuelles, mais ceux des militants qui auront une trajectoire collective pendant la guerre, c'est-à-dire qui mèneront une action collective, eh bien, inscriront cette trajectoire dans la résistance à la guerre, hein, pour l'essentiel. Il y a l'Union sacrée. Et ce sont ces militants, donc les militants du Libertaire, les militants de la FCA, qui, en 1919, c'est autour d'eux que se reconstruira le mouvement anarchiste français. Hein, les anarchistes qui s'étaient ralliés à l'Union sacrée auront été complètement déconsidérés, ils seront mis sur la touche. Mais c'est ceux de la FCA et ceux du Libertaire qui reconstitueront le mouvement anarchiste après-guerre autour d'eux.